D'abord, félicitations à nos jeunes mariés. Ce sont un peu les enfants ce sont les enfants, parmi les enfants du monastère. Et tout le monde sait à quel point, à quel degré nous leur sommes attachés et combien c'est réciproque, et depuis très longtemps. Et cependant, au-delà des congratulations affectives limitées, et je voudrais vous donner quelques explications, quelques très particuliers sur le mariage religieux. D'abord, indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur la chaleur de l'architecture de notre église, nous n'avons encore que les prémices, puisque c'est encore que des travaux, et il y a déjà une certaine harmonie, une certaine beauté qui est présagée, j'espère, une beauté encore plus grande quand elle sera terminée. Et mon but n'est pas de faire l'apologie de l'architecture de l'église. Enfin, pas complètement. Je voudrais dire que, quelle que soit la splendeur d'une église, de la construction d'une église, c'est un pâle reflet de la véritable église. Où est l'église ? L'église, c'est une église de pierre, de béton, de bois et de marbre, agrémentée d'icônes éventuellement, et de peintures. Ou elle est autre chose. L'église faite de main d'homme, l'église faite de main de pierre, elle est appelée à disparaître, tôt ou tard. Il y a une autre église, beaucoup plus profonde, qui est l'Église faite par Dieu, pas par les hommes justement, par Dieu, et qui est le lieu de sa présence. Et dans cette manifestation de l'Église, il y en a une particulière, c'est à travers le mariage. Le mariage, voilà une des vocations, une des plus belles vocations, qui manifeste véritablement le sens de l'Église, comme saint Paul le disait tout à l'heure. Elle manifeste l'union du Christ, de Dieu donc, et des hommes. Et c'est maintenant ce que, en couple, vous allez, quelle que soit votre histoire, l'histoire qui va s'en suivre, quelle que soit votre histoire, vous êtes le témoignage de cette présence de Dieu parmi les hommes. Et voilà la véritable Église. Elle est autrement plus belle que l'Église construite avec des matériaux humains ou par la volonté humaine. Là, c'est une Église construite par la volonté divine. Pour ceux qui ont un peu de connaissances théologiques, notamment du catholicisme, qui est le plus couramment répandu autour de nous, comme chrétiens, vous savez qu'on dit habituellement, et c'est vrai dans la théologie catholique, on dit que le sacrement du mariage, ce sont les époux qui se le donnent, ce sont les époux qui sont les ministres du sacrement, contrairement à l'Eucharistie, au baptême, à la chrismation et autres sacrements, où il y a ce sont les évêques et les prêtres qui sont leurs aides qui dispensent ce sacrement-là. Et là, dans le mariage, ce seraient les époux qui se donnent eux-mêmes le mariage. Il y a quelque chose de vrai, c'est-à-dire que c'est par leur union que l'homme et la femme scellent, appose un sceau qui fait que Dieu intervient dans leur vie et les unit effectivement. Ils s'unissent devant Dieu. Mais ça, c'est tout à fait juste pour ce que nous, les orthodoxes, nous appelons les fiançailles, la première partie de promesse faite de se donner l'un à l'autre. Mais dans la théologie orthodoxe, ceci n'est pas le sommet, j'allais dire suffisant. Ce n'est pas une question d'être suffisant ou pas. Ce n'est pas le sommet. Il y a nécessairement l'intervention de Dieu, l'intervention de l'Esprit-Saint, pour que ce que vous vivez, l'amour qui vous unit, soit véritablement transfiguré et soit le signe d'un autre amour. Et ça, comme la construction de l'Église faite par les personnes, les constructions, l'union de l'Église faite par Dieu, la même chose est pour le mariage. Seul l'Esprit Saint peut accomplir ceci, c'est une œuvre divine. Et voilà pourquoi il y a un sacrement de mariage. Voilà, c'est qui s'est manifesté à travers le couronnement et le boire à la même coupe. Il faut encore que le Saint-Esprit transfigure, dépasse, prenne, reçoive l'amour que vous offrez l'un à l'autre devant Dieu, au nom de Dieu, pour que cet amour-là soit l'image et la révélation, c'est plus que l'image, c'est la révélation même de l'amour que Dieu a pour les hommes et que les hommes lui rendent. Ceci est le centre même du mystère, du miracle, je ne sais pas comment vous l'appelez, du sacrement de mariage. Et ça, vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire par des moyens humains, que seul l'Esprit-Saint peut accomplir ça. Donc, nous nous réjouissons que le Saint-Esprit soit descendu et transfigure votre vie, pas simplement pour quelques heures, si Dieu vous prête vie, et à moi aussi, mais normalement pour toute nous espérons pour une longue et féconde vie, qui sera, quelle qu'en soit l'histoire, qui sera ce qui est nécessaire pour vous et pour l'ensemble de l'Église pour faire croître le royaume de Dieu. Et dans ce cadre-là, dans ce cadre d'un dépassement spirituel de votre amour et de votre union, je voudrais vous montrer comment Jean-Baptiste a fait un bon choix. Je ne juge pas les personnes, en se prenant une bonne aide. Il y a, quand on parle d'aide, que la femme est l'aide de l'homme, il y a une confusion grave, à laquelle on n'a pas fait attention pendant très 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 longtemps, parce que c'était dans les mœurs, mais qui aujourd'hui porte à confusion. Vous avez entendu l'épître de Saint Paul, les textes à plusieurs reprises, les textes et les prières à différentes reprises aussi. Il y a une insistance que la femme soit soumise à son mari, que le mari soit à la tête de la femme et que la femme soit l'aide de l'homme. Mais l'aide pourquoi ? La femme n'est pas une machine à laver. La femme n'est pas une aide pour les tâches ménagères, mais elle est une aide autrement plus importante que cela. Et voilà la raison pour laquelle l'homme doit vénérer sa femme. Remontons, si vous voulez, au récit de la Genèse, qui a été évoqué dans les textes tout à l'heure, pendant le mariage. Dieu a créé d'abord l'homme, symboliquement parlant, bien sûr, hein. Il l'a créé à partir de la glaise, à partir de ce qui était matériel, à partir de la création déjà accomplie, auquel il a insufflé sa vie, le souffle de Dieu, et ce qui a donné naissance à l'homme. Et Dieu a vu que cela était beau et bon. Mais après, il a créé une deuxième personne, il a multiplié l'homme, en prenant non plus de la glaise, non plus de la terre, non plus de la raison, à partir de ce qu'il y avait de meilleur dans la création, c'est-à-dire à partir de l'homme, il a tiré quelque chose d'encore meilleur, de plus sacré, c'est la femme, qui n'est pas tirée de la terre, mais tirée du côté de l'homme, du côté de l'homme. C'est ainsi que la femme représente dans le couple sacré, représente ce qu'il y a effectivement de plus sacré, de plus intuitif, de plus proche de la vie divine. Et la plus subtile pour comprendre l'action de Dieu, de voir Dieu et de voir son action parmi les hommes. Et de même que la femme a pour vocation, toute femme, fût-elle vierge ou stérile, peu importe, la femme a pour vocation d'être mère. Et en tant que mère, en tant que génitrice de vie, elle est collaboratrice avec Dieu de la création. Elle collabore à Dieu. Avec Dieu pour créer le monde. C'est ainsi qu'elle donne la vie. Et pas simplement la vie physique, la vie corporelle, mais aussi la vie psychique au sens de spirituel du terme. C'est la femme qui, dans le couple sacré, par l'intérieur d'elle-même, transmet la vie et la vie éternelle. Que Dieu lui accorde, elle est en quelque sorte, par sa nature féminine elle-même, elle est prêtre. Je ne veux pas dire prêtresse parce que ça porterait à confusion, mais elle est prêtre entre Dieu et les hommes, entre Dieu et son mari, entre Dieu et ses enfants, et entre Dieu et toute l'humanité. C'est ainsi que toute femme, qu'elle le reconnaisse ou non, est associée à la femme des femmes, à la mère de Dieu, laquelle a transmis par ses entrailles, a transmis aux hommes, à toute la création, a transmis la présence même de Dieu qui s'est incarné en elle et qui s'est révélé aux hommes, ce que nous célébrons tous les jours. Et c'est en cela que la femme est une aide pour l'homme. Elle est une aide pour l'aider, lui qui est un petit peu balourd, je ne juge personne, spirituellement parlant, j'entends. Elle aide l'homme à découvrir, à sentir la vie divine et à la transmettre. Et la femme est une aide, elle l'est effectivement, mais pour la découverte, pour la. La, 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 pour la, la, oui, comment vous dire, la découverte de cet autre mode de vie qui est le mode de vie spirituel. Et c'est à ce niveau-là seulement qu'elle est l'aide. À cause de cela, à cause de cette vocation, vous comprenez, qui est intime, qui vient de l'intérieur d'elle-même, que ne partage pas l'homme, il y participe par son union conjugale, mais ce n'est pas la vocation de l'homme. La vocation de l'homme, elle est extérieure, même physiquement. Je ne vais pas vous faire de dessin. L'homme, il gère les choses de l'extérieur. Et c'est là où l'homme peut être la tête de la femme. Ça ne veut pas dire la tête pensante ou intelligente. La tête spirituelle, c'est la femme. Mais la vocation de l'homme, la vocation, comme le Christ, comme le Seigneur, est de gérer les choses, organiser les choses, être le prêtre extérieur de la création, le ministre des sacrements. La femme n'est pas une ministre des sacrements, elle est ministre de la vie. Ce qui implique, dans la manière de vivre, et je ne vais pas me lancer dans ces explications-là aujourd'hui, ce qui implique une manière particulière de vivre et de participer au sacrement. Cette vocation, se fait sentir aussi, par exemple, dans nos rythmes, dans vos rythmes de communion, dans votre manière de prier, ça s'incarne concrètement dans votre vie personnelle. Et n'allez pas rejeter trop rapidement certaines traditions dites désuètes aujourd'hui, comme la non-communion, par exemple, pendant 40 jours, quand après un accouchement, le temps de la purification, c'est pas une règle morale. Je prends que cet exemple-là. C'est pas une règle morale. Ça découle du sens même de votre vocation à vous, mesdames. Nous, les hommes, n'avons pas les mêmes obligations, mais nous n'avons pas la même proximité de Dieu non plus. Nous avons besoin de vous, que vous soyez mariés ou que vous soyez monial, nous avons besoin de votre aide pour parvenir à Dieu. Est-ce que j'étais à peu près clair?
Oui.
Mais en aucun cas, ça ne justifie l'aspect machiste, si je puis le dire comme ça, que l'on trouve dans beaucoup de civilisations, y compris dans la nôtre, où l'homme domine la femme. C'est pas une question de domination. L'homme et la femme sont absolument égaux devant Dieu en honneur et en action, mais chacun à sa manière, en collaboration. Dans le mariage, par la collaboration du couple que vous formez, dans la vie monastique, en sublimant, en dépassant cette distinction homme et femme par une consécration aussi totale que possible à Dieu, mais dans les deux cas, c'est le même but.